This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz en l'histoire ou quand le jazz retrouve des repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, en 1974, eh bien, on assiste à un premier cas, peut-être pas tout à fait le premier, mais un célèbre cas, en tout cas, de désobéissance civile inspirée de la théorie, la fameuse théorie de Gandhi. Probablement sous l'influence d'un philosophe, Lanza del Vasto, qui était installé sur le Larzac. Et donc je veux vous raconter l'histoire, un moment de l'histoire de la lutte du Larzac. Cette lutte ayant commencé dans les années 70, en 1974, elle voit un rassemblement se produire sur le plateau avec une centaine de milliers de personnes venues de tous horizons contre l'extension du camp militaire. Ce cas de désobéissance civile non violente, il faut bien le préciser, contre un occupant, entre guillemets, lui-même, qui est l'armée française, va durer en fait de 71 à 81. Et ça va se solder par la victoire des paysans lorsque François Mitterrand, nouvellement élu président de la République, décidera d'abandonner ce projet. Alors l'opposition à cette extension s'est d'abord organisée autour de 103 paysans locaux qui se sont soulevés contre l'expropriation de leurs terres après que le ministre de la Défense, Michel Debré, ait décidé l'agrandissement du camp militaire du Larzac de 13 700 hectares. Au total, pour 13 700 hectares. En 73, 5 ans après mai 68, entre 60 000 et 100 000 personnes de différents courants convergeront vers le Larzac pour soutenir les paysans et former un mouvement un petit peu hétéroclite, mais qui va donc commencer une guerre d'usure au pouvoir public. Le rassemblement et le réseautage national résultant de la convergence de ces luttes seront le terreau de ce qui, plus tard, sera connu comme notamment le mouvement altermondialiste français. Et la revue qui est créée à cette époque, Gardarem ou Larzac, nous garderons le Larzac en occitan, qui paraît régulièrement depuis 1975, en est un symbole. Le mouvement a ainsi contribué à populariser peu ou prou des personnes comme Lanza del Vasto, dont j'évoquais la personnalité, ou Guy Tarlier, qu'on entend dans nos interviews, et puis plus récemment, José Bové, bien entendu.
J'accuse l'État français d'occuper notre pays en implantant partout des camps militaires. J'accuse les Français d'utiliser le modernisme, la technique, la course à la rentabilité afin d'anéantir ou d'asservir les travailleurs de la terre par son armée, par ses écoles. J'accuse l'État français de diviser les travailleurs en diffusant par la presse et la télé des mensonges sur ceux qui luttent. J'accuse l'État français de génocide culturel envers le peuple occitan.
Depuis septembre 70, sans cette exploitation agricole, 540 personnes sont menacées d'expulsion par le projet d'extension du camp militaire du Larzac en Aveyron. Ce sont pour la plupart des petits paysans, certains plus aisés, emploient des ouvriers agricoles et sont équipés en matériel moderne, nécessaire aux grandes surfaces de terre pauvres sur lesquelles paissent des moutons. Seulement, ils veulent rester dans ce pays qu'ils ont mis en valeur et qu'ils aiment. Alors, 103 d'entre eux refusent de partir.
Voilà, et ces 103 vont réaliser une sorte de serment, ils vont écrire une charte auquel tous vont signer. Donc sur les 107, il n'en restera que 103. Et ils vont, cette charte précisera que donc ils vont rester là jusqu'à ce que, non pas que l'armée parte, mais qu'elle se reste cantonnée à sa surface initiale. Alors l'erreur d'André Fanton, qui était secrétaire d'État à la Défense et qui a fini par convaincre Michel Debré d'étendre le camp pour de sombres raisons immobilières et foncières, en réalité. L'histoire montrera que des gens avaient acheté les terrains qui étaient convoités et puis immédiatement revendus à l'armée, évidemment en faisant un bénéfice tout à fait conséquent, des gens qui étaient proches du pouvoir à ce moment-là. Enfin bref, donc, l'erreur du gouvernement d'André Fanton et puis de Michel Debré également, c'est d'avoir un peu sous-estimé les choses. C'est-à-dire que dans leur vision un peu parisienne, un peu éloignée, centralisée, eh bien, le Larzac, c'était une sorte de désert dans lequel quelques exploitations, ils en avaient comptabilisé 23, comprenaient donc ces exploitations qui étaient peu rentables. L'essentiel du terrain était composé de cailloux, donc à peine bon pour les brebis, et encore pour les brebis, on n'en était pas sûr. Et donc, ils fabriquaient quelques tomes de Roquefort, ici ou là, mais sans un grand impact économique. Alors là, ils s'étaient un peu trompés, parce que ces données étaient datées. Et évidemment, ces données qui venaient de l'INSEE, mais vous savez que l'INSEE met un certain temps à digérer les données qui lui sont communiquées. Et donc, ces données ne tenaient pas compte du mouvement qui, depuis 1965, puis 1968 de manière alors beaucoup plus massive, avait vu arriver des néo-ruraux qui ont rénové des fermes, qui étaient laissées à l'abandon, ont amélioré le rendement et donc se sont mis à revaloriser les terres arables du Larzac. Alors la méthode de comptage du gouvernement était donc un petit peu erronée. Elle ne concernait que des propriétés totalement expropriées, sans tenir compte de toutes celles où, en grignotant un morceau, on allait empêcher les habitants, en les expropriant, de continuer à vivre sur ce territoire parce que leurs exploitations allaient se réduire considérablement. Et donc, dans cette perspective-là, on ne touchait plus 23 exploitations agricoles, on en touchait près de 60. Alors, les éleveurs de brebis et producteurs de Roquefort attachés à leur ruralité contestent évidemment que l'agrandissement du camp soit créateur d'emplois parce que s'il s'agit d'un camp d'entraînement, comme le précise l'armée à ce moment-là, eh bien, les unités viendront s'entraîner, ne feront que passer et on doute très largement qu'il y ait quelques retombées positives.
Pour qui n'a pas l'œil, il n'est guère facile de distinguer au loin les moutons parmi la pierre, cette pierre qui parsème le Larzac et donne au plateau cette vision de désert. La terre n'y est ni riche, ni d'accès très praticable pour une culture traditionnelle, et les jardiniers de cette nature-là ne pourraient être rien d'autre que les moutons. La région y a quand même trouvé matière à industrie, la ville de Millau s'y étayait une réputation, dans le cuir et la ganterie, et Roquefort a su faire du lait des brebis, le fromage qu'on sait. Mais au-delà de l'agriculture, le Larzac, c'est une terre. Les 103, ces 103 exploitants que l'armée voudrait exproprier pour y installer son nouveau camp, les 103 ont la couleur de cette terre. Ils y sont attachés comme la pierre. Et le calme du Larzac, qui ressemble à leur solitude, ne les prédisposait pas à la colère. Ils ont pourtant réagi, brutalement, quand la Défense nationale a décidé d'étendre le camp, il y a 3 ans. Leur terre était menacée et on ne leur avait pas demandé leur avis.
Pour notre part, nous, paysans du Larzac, nous sommes pleins de bonne volonté. Il suffit simplement que de l'autre côté, on trouve des gens qui aient exactement le même état d'esprit que nous et qui ne mettent pas de diktat et qui veuillent bien essayer de comprendre des paysans et de comprendre les gens au lieu de vouloir systématiquement leur imposer des décisions.
L'affaire du Larzac est devenue une affaire qui nous dépasse un peu pour l'instant. Parce que ça a pris une extension qui n'intéresse pas simplement le problème local. Il n'intéresse pas le problème local du fait que, comme je le disais, on conteste les méthodes. Et on remarque de plus en plus que ces méthodes gouvernementales, n'est-ce pas, ces prises de position qui sont d'un autoritarisme qu'on ne peut pas admettre, s'étendent à d'autres domaines. C'est ce qui a créé d'ailleurs, à notre égard, la solidarité de tous ceux qui ont des problèmes de dignité humaine, de défense au droit de la vie, et ce qui évidemment est quand même appréciable, qu'on ne peut pas rejeter comme cela.
Localement, nous avons aussi bien le soutien de tout l'ensemble des maires de l'Aveyron, de tout l'ensemble du conseil général, de tout aussi bien les partis de gauche que de l'évêque, tout le monde se trouve rassemblé autour de nous pour nous soutenir. Alors face à cette masse qui est contre cette extension de projet du camp militaire, il est sûr que, que l'armée se trouve devant, un problème très grave dans la mesure où elle veut rester en contact avec, avec l'ensemble des Français.
S'il y a encore possibilité d'entente, les agriculteurs se déclarent ouverts à la discussion. Revoyez le projet, disent-ils aux militaires, il y a peut-être moyen d'étendre le camp en épargnant nos terres.
Il est indiscutable que nous ne faut pas être, nous, des gens chasseront l'armée par la force. Non, pas l'intention de lutter contre elle, de cette façon-là. Au contraire, si on peut arriver, n'est-ce pas, à une compréhension réciproque.
Voilà, et c'est ainsi que autour de ce mouvement de quasi-résistance, donc bien que pacifique, eh bien, l'armée va avoir quelques difficultés à se situer, le gouvernement va être quelque peu fragilisé, même s'il maintient son idée d'extension, et à ces paysans du Larzac vont venir s'ajouter des militants de tous bords antimilitaristes, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, c'est l'armée qui est en cause, ce n'est presque plus un problème agricole, ça devient un problème militaire, et donc toute une série de militants antimilitaristes vont venir sur ce Larzac, des gauchistes bien sûr, issus de mai 68, toutes sortes de syndiqués, la CFDT, les LIP, la tentative de reprise par ces ouvriers de l'usine LIP qui est dans le Jura, donc ces gens vont envoyer des délégations. Enfin, il va converger sur ce plateau des gens venant d'un petit peu toutes sortes de mouvances dont le commun dénominateur, évidemment, c'est non à l'extension de l'armée, non à la guerre et plutôt favorisons la paix. Alors un film a été réalisé pour un petit peu synthétiser cette affaire qui n'est évidemment qui s'est terminée sur le plan foncier mais qui a laissé des traces et aujourd'hui il y a toujours une grande solidarité entre les exploitants du Larzac. Le film donc a été réalisé, donc je vous propose d'écouter la bande-annonce.
Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre.
La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier.
Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi.
On était condamnés à disparaître.
On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment, et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix.
La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs.
Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment la prendre, une brebis. Des flics.
Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi.
L'argent, il n'en manque que ce mot à la bouche.
Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera.
On répondait à une agression.
Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre. Oui, on investit, oui, on continue.
De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même.
On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin.
Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne le prendront pas.
Voilà un film de Christian Rouault. Donc, on entendait les voix de Marisette, Christiane, Pierre, Léon et José. José Beauvais, le dernier, bien entendu. Voilà, cela se passait donc le 17 août 1974. Entre le 17 et le 18, un énorme rassemblement qui a donc regroupé plus de 100 000 personnes et qui sont donc restées 2 jours, qui ont fait la fête. Il y a eu beaucoup de musique, beaucoup de moyens, beaucoup de boissons qui ont circulé. Enfin, c'était très, très sympathique. Voilà pour ceux qui y ont participé, dont j'étais. Cette année-là, en 1974, un musicien saxophoniste argentin vivant à New York, se fait connaître par la réalisation d'un album intitulé Yesterday. Mais c'est un musicien qui avait fait parler de lui quelques années auparavant, en 72, avec la musique d'un film qui était arrangé par le musicien Oliver Nelson, un film de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando et Maria Schneider. Je pense que vous aurez compris de qui il s'agissait. C'était Le Dernier Tango à Paris. Dernier tango à Paris, donc musique du film réalisé par Gato Barbieri, composé par Gato Barbieri, réalisé par lui-même. C'était donc en 72, et on commençait, c'était un peu... Évidemment, il jouait depuis quelques années, mais c'est ce qui a fait sa première notoriété. Mais en 74, donc il a 40 ans, puisqu'il est né en 1934, et là il va enregistrer un album intitulé « Yesterdays », pour le label Flying Dutchman, et c'est un des premiers albums qui va imposer sa notoriété définitive et son talent. Alors c'est un musicien argentin qui a beaucoup vécu à New York, qui a fait des très longs séjours en Italie du Nord, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a rencontré Bernardo Bertolucci et qu'il a pu faire la musique du film de Bertolucci. Il est donc né en Argentine, il a beaucoup vécu à New York, où il vit toujours d'ailleurs. C'est un musicien qui a, qui a eu un compagnonnage assez proche avec Carl Abley, avec Don Cherry, avec Dollar Brand également, avant qu'il ne change de nom pour s'appeler Abdullah Ibrahim, et qui faisait partie des Jazz Contemporary Composers, qui était une sorte de coopérative new-yorkaise qui tentait d'imposer un nouveau jazz. Et d'ailleurs, on entend dans la musique qu'il fait des sonorités, des rythmes qui n'étaient pas courants à l'époque. C'est un musicien qui a donc tenté de mêler la tradition jazz et puis le côté latin avec une relecture très coltrénienne. C'est un grand admirateur de John Coltrane. Et en fait, le premier concert qu'il a fait en Europe, c'était à Montreux en 1971. C'est un concert qui a été enregistré, donc je ne saurais trop vous conseiller de trouver l'album. Ça s'appelle El Pampero, dans lequel il y a une interprétation de Brésil, le fameux, j'allais dire, le saucisson Brésil, parce que c'est un morceau qui a été joué énormément. Eh bien, quand on l'entend jouer par Gato Barbieri, tout à coup, on redécouvre le morceau. C'est assez étonnant. Mais nous revenons à cet album, Yesterdays, enregistré en 1974. Alors là, il y joue donc un John Coltrane blues de sa composition. Et il joue en compagnie de Bernard Purdy au piano, Ron Carter à la basse et George Dalto aux percussions. Thank you. Voilà, ainsi s'achève cet épisode nouveau de l'année 1974. Un autre épisode nous attend, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.